إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نواصل بعون الله تبارك وتعالى ومننه علينا شرح التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. وقصرنا في دراسة باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية، أخنا عز الدين، بارك الله فيك.
باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
أحسنت. طيب، إذن قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في هذا القدر من الحديث، يعني قوله رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب بن الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. طيب، وقلنا يحتمل أن يكون معه كذلك المسيب رضي الله عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي. طيب، فيجوز أن يقال يا عمي أو يا عمي. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شرحنا هذا. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لا إله إلا الله يا عمي قل. فأعاد، أعاد ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا القدر من هذا الحديث فائدة، فيه فائدة، وهي أن هذه الكلمة لا إله إلا الله ليست كلمة مجردة عن المعنى، ليست كلمة مجردة عن المعنى، بل لها معنى عظيم تنفع من قالها. يعني ليست كلمة مجردة عن المعنى تنفع من قالها ولو لم يقر بمعناها، لا، عليك السلام ورحمة الله. والعرب كانوا لصلابتهم وكانوا لعزتهم ورجولتهم ومعرفتهم بما يقولون إذا تكلموا أو خوطبوا بكلام يعون كل حرف، يعون أن يفهم ويعتبر، أو يفهمون يعتبرون كل حرف وكل كلمة خوطبوا بها أو نطقوا بها. ولذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، مع أنها كلمة يسيرة، لا إله إلا الله كلمة يسيرة أو ثقيلة، يسيرة يعني نطقا، نطقا لكن ثقيلة معنى، أبوا، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها إبطال إلهية من سوى الله جل وعلا، أي إبطال دينهم وعقيدتهم. ولهذا قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش؟ يستكبرون، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال جل وعلا بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وكذلك قول الله جل وعلا مخبرا عن قولهم في أول سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة يعني عديدة إلها واحدة، استنكروا قول لا إله إلا الله، استنكروا لأنهم فهموا. وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو كانت كلمة مجردة من المعنى عندهم أو يمكن أن يقولها المرء دون اعتقاد ما فيها ورضا بما فيها ويقين وانتفاء الريب لقالها، لقالها. ولكن ليس هذا هو المقصود من قول لا إله إلا الله، بل المقصود هو قولها مع تمام اليقين بها وانتفاء الريب والعلم والمحبة والقبول. تعرفون شروط لا إله إلا الله؟ يقين، نعم، إلى آخر الشروط المعروفة. جل الشيخ صالح حفظه الله تعالى par rapport à ce passage du hadith de Ibn Musayyib رحمه الله تعالى qui rapporte donc de son père Al-Musayyib رضي الله عنه qui était donc un compagnon. Il dit lorsque la mort vint à Abu Talib, donc on a dit les prémices de la mort, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint à lui, vint auprès de son oncle qui était en train de mourir. Et auprès de lui, il y avait, on a dit, Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Et on a dit aussi qu'il est probable, très probable même, qu'il y avait aussi donc le rapporteur du hadith qui est Al-Musayyib. Taïr. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô oncle, ô mon oncle, yani, dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Et on a vu hein, ce que voulait dire la parole La ilaha illallah il y a 2 semaines. Une parole par laquelle j'argumenterai en ta faveur, je plaiderai en ta faveur auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici que c'est une parole avec laquelle tu peux plaider pour quelqu'un. Tu peux plaider en faveur de quelqu'un, tu peux défendre quelqu'un parce qu'elle a dit juste La ilaha illallah. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les deux, yani Ibn Abi Umayya et Abu Jahl? Ils ont dit à Abu Talib, parce qu'ils ont senti qu'Abu Talib, il aurait pu répondre favorablement à la demande de son neveu. Ils ont dit, vas-tu délaisser, targhabu an, donc le verbe yani raghaba avec le an, il a le sens de taraka, délaisser. Vas-tu délaisser la religion de Abdel Muttalib? Vas-tu délaisser l'adoration des idoles? Vas-tu délaisser le shirk? Et le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'il a entendu ça, il répéta encore. Il insista. Il n'a pas lâché l'affaire. Il insista encore. Ô mon oncle, ô tonton, dis la ilaha illallah. Et les deux derrière, ils insistèrent encore aussi. Ils n'ont pas lâché l'affaire également. Et ils ont répété, vas-tu délaisser la religion de Abd al-Muttalib, ton ancêtre? Ton ancêtre? Oh! Hein? Ton peuple, ton clan, ta lignée, ta tribu, tes origines, ton sang? Hein? Et la dernière parole donc, de Abu Talib fut, huwa ala millat Abd al-Muttalib. Qu'il est resté sur la religion de Abd al-Muttalib. Donc il a refusé de dire La ilaha illallah. Dit le cheikh, dans ce passage, il y a un enseignement. Cet enseignement, c'est que la parole La ilaha illallah n'est pas juste une simple parole dénuée de signification. Dénué de sens. Ce n'est pas juste une formule. Hein? Yani, comme ça que tu prononces et qui ne veut rien dire. Ou qui ferait de toi un musulman sans même que tu saches ce que ça veut dire. C'est tout. C'est juste une étiquette. La ilaha illallah. La. Ce n'est pas une parole qui peut profiter à celui qui la prononce sans qu'ils comprennent ce qu'elle veut dire. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Comme celui qui croit que c'est un musulman et qu'il est voué au paradis parce qu'il est né dans une famille musulmane et parce qu'il jeûne le mois de Ramadan, ça fait de lui un musulman, même s'il ne prie pas, même s'il ne fait rien. C'est un musulman étiqueté, ça y est. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est un musulman. Parce qu'il dit La ilaha illallah. Il dit, moi je connais La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Mais quand tu lui demandes, Taïeb, explique-moi c'est quoi La ilaha illallah. Explique-moi ce que ça veut dire La ilaha illallah. Hein? Et beaucoup d'entre eux vont te donner une réponse qui est fausse. Qui est fausse. Qui n'est pas le sens de La ilaha illallah. Parce que si le sens de La ilaha illallah c'était il n'a de Dieu que Dieu, hein? Ou il n'y a de Seigneur que Allah tabarak wa ta'ala, Abu Talib il aurait dit. Abu Talib il aurait dit. Abu Jahl il aurait dit. Ça voulait dire ça. Pourquoi ils ne l'ont pas dit alors? Parce que ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'y a de Seigneur que Allah tabarak wa ta'ala. C'est plus profond que ça. Et il avait compris eux. Il avait très bien compris. Taïeb, donc cette parole-là, elle ne peut pas profiter à la personne, même si elle a dit tous les matins, tous les soirs avant de dormir, comme font beaucoup, avant de dormir, la ilaha illallah, ça y est, là, c'est au paradis. Hein? C'est vrai ou pas? Combien de parents enseignent à leurs enfants, mon fils avant de dormir, n'oublie pas,
dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan, mais il prie pas. Par contre, il ne dit pas de prier. Mais il dit là, ça y est, tu es vous au paradis, car tu fais partie du peuple élu. Là, c'est pas comme ça, les frères. Et les Arabes, donc, à l'époque, même s'ils commettaient du shirk, même s'ils adoraient des idoles, même s'ils faisaient des choses yani, incroyables et détestables auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala, ils avaient des qualités quand même. Ils avaient une virilité, une véracité, une fierté. Ils avaient une fierté, une force et une connaissance dans ce qu'ils disaient. Ils ne prononçaient pas une parole à la légère, comme on le fait tous aujourd'hui. On prononce des fois des paroles à la légère, comme ça. Là, les Arabes à l'époque, ils mesuraient tout ce qu'ils disaient. Chaque mot, il dit le cher, chaque lettre. Chaque lettre était pesée et mesurée avant de parler. Et aussi, quand on leur parlait. Quand tu lui parlais, l'arabe, il écoutait. Chaque lettre, chaque mot. Hein, il n'écoutait pas à moitié. Il écoutait tout pour bien comprendre lorsqu'on leur parlait. Afin qu'ils retiennent, et on connaît la mémorisation des gens d'avant, qu'ils retiennent chaque lettre, chaque mot que tu lui avais prononcé. Ou qu'il a prononcé lui-même. Il ne prononçait pas de paroles comme ça, dans le vent ou... Non. C'est la raison pour laquelle, lorsque le prophète leur dit, dites la ilaha illallah, qui est en soi, au niveau de la prononciation, une parole qui est facile à prononcer. La ilaha illallah, la bouche, elle ne se ferme même pas la bouche. Tu n'as même pas besoin de fermer la bouche. Il n'y a pas de mime, il n'y a pas de ba, il n'y a pas de noun. La ilaha illallah. Et ça, c'est une rahma de la part d'Allah, tabarak wa ta'ala. Pour celui qui est malade et qui va mourir, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour dire la ilaha illallah. Mais il ne dira la ilaha illallah que celui à qui Allah Jalla wa ala aura facilité. Donc, lorsqu'il leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils savaient très bien ce que cette parole-là signifiait. Ils savaient totalement qu'elle implique que leur adoration et leur divinisation d'autre que Allah tabarak wa ta'ala était en vérité un mensonge et totalement faux et totalement rejeté par Allah tabarak wa ta'ala. Ils avaient très bien compris ça. Taïb. Et c'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala dit dans la sourate As-Saffat, dans le sens du verset, lorsque on leur disait la ilaha illallah yastakbirun, ils s'enflaient d'orgueil et ils disent allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou, pour un poète fou. Mais Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, il a innocenté son prophète en disant bel ja'a bil haqq. Au contraire, il est venu avec la vérité wa saddaqa al mursalin, et il a confirmé les messagers avant lui. Saddaqa al mursalin. Et c'est pour cela que la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, également dans la sourate Sad, début de la sourate, aja'ala al alihata ilahan wahidan, va-t-il faire des divinités une seule divinité? Ils ont compris le sens de la ilaha illallah. Ils ont compris que la ilaha illallah implique et exige que tu n'adores qu'Allah et Allah seul. Que tu délaisses toute forme de croyance païenne, polythéiste, associatrice. Que tu enlèves toutes les mains de Fatma. Que tu enlèves tous les yeux que tu accroches chez toi. Que tu arrêtes de faire preuve de superstition, les chats noirs, que tu mettes des pattes de lapin chez toi, ou des fers à cheval, ou des fils rouges. Les fils rouges, naam.
C'est quoi
Ou genre de... Il faut de tout maintenant. Des plumes bizarres, voilà, c'est... D'ailleurs, eux, ils avaient compris ça. Ils ont compris cette chose que beaucoup d'entre les musulmans aujourd'hui n'ont pas compris. Et avant de dormir, ils disent « La ilaha illallah ». Et autour du cou, ils disent « La ilaha illallah » autour du cou, ils ont une main de Fatma ici. Chez eux, ils ont des lampes, des lustres en forme de main. Des lustres en forme de main. Je l'ai vu ça, plein de fois. Taïeb. Istankar. Donc ils ont désapprouvé, ils ont refusé. « La ilaha illallah ». Et c'est donc... ce qui arriva donc avec Abu Talib, lorsque le prophète il lui dit, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je plaiderai en ta faveur auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc ça montre bien que ce n'est pas une parole vide, car si ça avait été une parole vide de sens pour eux et qu'il aurait été possible du coup de la dire sans avoir une croyance particulière ou sans accepter ce que la ilaha illallah exige et implique avec certitude, sans aucune hésitation, ben, il aurait dit. Il aurait dit. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce qui est voulu par la prononciation de la ilaha illallah, c'est pas juste une simple prononciation. Il faut que l'on comprenne ça. Chaque mot que tu prononces, il faut qu'on soit comme les Arabes à l'époque. Il faut qu'on pèse chaque lettre que tu prononces. Chaque lettre, il faut que tu la pèses, que tu la comprennes, que tu la sentes dans ton cœur avant de la dire. Quand tu passes le salam à ton frère, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, il faut que tu le pèses avant de le dire. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu le ressentes. Il faut que tu mettes la bonne intention afin qu'Allah te récompense. Afin qu'Allah te récompense. Quand tu rentres en prière, Allahu Akbar, il faut que tu pèses ce mot. Allahu Akbar. C'est pas une simple formule. Vide de sens. Ou une formule juste pour ouvrir et entrer en prière. Non. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-A'la. Là, on a vu les sifat de l'ulou. L'élévation, tu reconnais Allah tabarak wa ta'ala, l'élévation au-dessus des créatures, au-dessus des cieux, au-dessus de l'arche, du trône. Vous posez nos mots, comme le faisaient les Arabes, avec tous les défauts qu'ils avaient. Donc, l'objectif même de la parole, de la prononciation de la parole, la ilaha illallah, eh bien c'est le fait de la prononcer avec une certitude, l'yaqin, une profonde certitude, sans doute, sans hésitation, et avec science, avec amour, avec acceptation, jusqu'à y en ait le reste des conditions de la ilaha illallah que vous connaissez, inshallah. Wa qawluhu fil hadith, faqala lahu أترغب عن ملة عبد المطلب هذا فيه والعياذ بالله ضرر جليس السوء على المجالس له dans le hadith on apprend donc que Abu Jahl et à l'époque Ibn Abi Umayya n'ont cessé de dire à Abu Talib est-ce que tu vas délaisser la religion de Abd al-Muttalib est-ce que tu vas délaisser la religion de Abd al-Muttalib. Et on a dans, juste dans cette phrase-là, on a la mauvaise influence des gens avec qui tu restes, de la mauvaise fréquentation, l'impact de la mauvaise fréquentation. D'accord ? Et un jalis, c'est pas seulement avec qui tu t'assois, c'est pas... Forcément, l'assise, ça peut être le fait de rester debout avec la personne. Mais c'est le fait de rester avec la personne, de la fréquenter. Taïeb. Ici, la mauvaise fréquentation l'a amené en enfer. L'a amené en enfer. Et combien de fréquentations ont mené nos enfants, qu'Allah les préserve, vers les chemins de l'enfer? Combien de parents ont négligé la fréquentation de leurs enfants, n'ont pas surveillé? Ils n'ont pas surveillé. Il faut surveiller. Cheikh Al-Fawzan, fidaullah ta'ala, il dit, c'est une obligation que tu surveilles. Ne dis pas, non, c'est sa vie, miskin, je le laisse, c'est sa vie privée. Là, c'est ton devoir, surveille-le. Surveille son téléphone. Surveille sa tablette. Surveille son ordinateur. Surveille ses messages. Subhanallah. Filles ou garçons, c'est pas que les filles. C'est pas que les filles, les garçons aussi. C'est pas, ouais, la fille, je la surveille, je la séquestre, la fille. Mais le garçon, il fait ce qu'il veut. C'est quoi ça? Les deux, il faut les surveiller. Les deux, il faut les surveiller. Parce que la mauvaise fréquentation, elle peut l'amener là où elle a amené Abu Talib. Ne crois pas. Il peut un jour te dire, Wallahi papa, l'islam, je ne sais pas, j'ai un doute. L'islam, j'ai un doute. J'ai des collègues, ce ne sont pas des musulmans, mais ils sont bien, ils sont gentils. Voyez. C'est peut qu'un jour il te dise, Wallahi papa, je ne sais pas si Dieu il existe. À mon avis, il n'existe pas. Car s'il existait, il n'y aurait pas ceci et cela, ceci et cela. Le mohim. C'est Allah qui guide. Mais toi, fais les causes. Fais les causes. N'attends pas qu'il ait 32 ans pour l'appeler à l'islam. Mais... Depuis tout petit, il faut l'appeler à l'islam. Il faut l'amener avec toi à la mosquée. Il faut l'enseigner ce que ça veut dire la ilaha illallah. Il ne faut pas le lâcher. Et n'écoute pas les gens qui te disent, ah, tu es trop dur avec ton fils ou là, ta fille. N'écoute pas ces gens-là. N'écoute pas, même si ce sont tes proches, ta mère, ta belle-mère. Ne les écoute pas. Car Allah, ils ne seront pas avec toi, Yaman Qiyama, lorsqu'Allah va t'interroger sur ce que tu as fait avec tes enfants. Ils ne seront pas avec toi, eux. وقوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك وهذا موطن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك واللام في قوله لأستغفرن هي التي تقع في جواب القسم وهذا اللام تقع كثيرا في القرآن الكريم فثم قسم مقدر قسم مقدر تقديره والله لأستغفرن لك فالاستغفار حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ولكن هل نفع استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له لم ينفع ذلك لم ينفع ذلك donc la parole ici du narrateur et la dernière parole يعني d'Abi Talib fut qu'il reste sur la religion de Abd al-Muttalib donc il a refusé de dire la ilaha illallah. Mais le prophète, il dit à ce moment-là, par Allah, je demanderai pardon pour toi tant que on ne me l'interdit pas. Par Allah, je demanderai pardon pour toi tant qu'on ne me l'interdit pas. Donc ça, c'est ce passage en vérité qui est en lien direct avec le chapitre. Autrement dit, le rapport entre ce chapitre et ce hadith, c'est cette parole-là. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit « La astaghfiranna laka »« Je demanderai pardon pour toi. » Allahu Akbar. Donc le lam ici, le lam, harf lam, juste avant استغفرن لا استغفرن non la astaghfirun. طيب on voit l'importance de bien lire l'arabe, de faire attention au moudoud, parce que le lam, si tu le prolonges, tu dis la astaghfirun, tu dis le contraire, tu dis je demanderai pas pardon, la, alors que le lam seul, la astaghfirun, c'est le contraire. Il y a un tawkid ici. Il y a une insistance, il y a un appui, au contraire, c'est un lème qui vient appuyer et qui vient sous-entendre un serment. Un serment. Donc c'est un lème qui vient en réponse à un serment. C'est-à-dire que ce qui est sous-entendu, c'est quoi? C'est par Allah. Je jure sur Allah. Je jure sur Allah que je demanderai pardon pour toi. C'est ça, qu'il implique, c'est ça qui est impliqué par ce lème. La astaghfiranna laka. D'accord? Ça implique le serment. Donc la demande de pardon ici, elle vient de qui? Elle vient du prophète lui-même. La meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Pour son oncle, Abu Talib. Son proche, parent. Mais est-ce que la demande de pardon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Allah, en faveur de son oncle, lui est bénéfique? Là. Elle ne lui est pas bénéfique. Wa talab al-shafa'a wa al-istishfa' huwa min jins talab al-maghfirah. Fa al-istighfar talab al-maghfirah. Wa al-shafa'atu qad yakunu minha talab al-maghfirah. Walakin lam yaqbal Allah ta'ala min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam شفاعته لعمه لأن المطلوب له كان مشركا والاستغفار والشفاعة لا تنفعان أهل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينفع مشركا بالشفاعة له بمغفرة ذنوبه أو أن ينفع أحدا ممن توجه إليه بدعوة أو استغاثة أو استعانة لإزالة ما به من كروبات أو جلب الخيرات له. لهذا قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا ظاهر في المقام أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين. Donc la demande d'intercession, l'istishfa, la demande d'intercession, elle fait partie de la demande de pardon. Quand tu intercèdes pour quelqu'un auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, tu demandes à Allah qu'il lui pardonne. D'accord? Donc la demande de pardon, l'istighfar, c'est la demande de al-maghfira. D'accord? Istighfar, le alif, le sin et le ta qu'il y a au début du mot là. Istighfar, il indique la demande de quelque chose. La demande de quoi? D'al-maghfira. Istishfa, la demande de al-shafa. D'accord? Istisqa, la demande de la pluie. Hakada. Donc l'intercession, il se peut qu'il y ait en elle une demande de pardon, bien sûr. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'accepta pas donc l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib. Pourquoi? Eh bien parce que celui pour qui il a demandé pardon, c'est un mushrik. C'est un mushrik. Le problème ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Loin de là. Le problème, il vient de son oncle. De celui pour qui il a demandé pardon, Abu Talib. Donc la demande de pardon et d'intercession ne profiteront jamais aux associateurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le pouvoir de faire profiter un polythéiste de son intercession en demandant pardon pour ses péchés. Ou en profitant à qui que ce soit, à quiconque demanderait au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort le secours ou des choses ou l'aide ou l'assistance pour dissiper des malheurs ou pour amener un bien. Le prophète ne peut rien faire. Et c'est pour cela que Allah, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, par Allah, je demanderai pardon pour toi tant que on ne me l'interdit pas. Tant que on ne me l'interdit pas. On voit ici donc le comportement du prophète avec Allah. C'est-à-dire, si Allah me l'interdit, je ne le ferai pas. Et Allah, il a interdit. Il a descendu sa parole dans le sens du verset. Il n'appartient pas au prophète ni à ceux qui ont cru de demander pardon aux associateurs. Ici, il n'appartient pas dans le sens, il est interdit. D'accord ? Ma kana lin nabi. Il a le sens de l'interdiction. Il est interdit au prophète et à ceux qui ont cru de demander pardon aux polythéistes, même si ils font partie de leurs proches, après qu'il leur est apparu clairement qu'ils font partie des gens de la fournaise. Donc, ici c'est clair, Allah tabaraka wa ta'ala, il a interdit à son prophète, alayhi salatu wassalam, de demander pardon aux polythéistes. La yajuz. Faïda. Kalima ma kana. Des faïda jamila. Ma kana fil kitab wa sunnah. تأتي على استعمالين كلمة ما كان كذا وكذا تأتي على استعمال نعم
c'est par rapport à la traduction est-ce qu'elle concerne le mot ou les deux
pas compris
par rapport à la traduction de demander pardon pour c'est notre proche qui ne sont pas croyants ça concerne est-ce que ça concerne les voix ou les vivants
اختلف العلماء les savants ont divergé. Il n'y a pas de divergence sur celui qui est mort, sur la mécréance, c'est interdit. Maintenant, sur celui qui est vivant, est-ce que tu as le droit de demander la rahma ou le pardon pour un mécréant vivant ? Il n'est pas encore mort. C'est ta question ? Taïeb. Les savants ont divergé. Wal-asah, le plus correct, c'est que si ton intention, toi, quand tu dis « Ya Allah, pardonne à un tel qui n'est pas musulman » et qu'Allah, tabarak wa ta'ala, la guide à l'islam, et une fois qu'elle sera guidée à l'islam, Allah, jalla wa ala, pardonnera tous les péchés qu'elle a fait. Ou quand tu demandes la rahma, la bienveillance pour un mécréant de son vivant, avec l'intention qu'Allah, jalla wa ala, donc, la guide à l'islam et la fasse sortir de sa mécréance, c'est une rahma immense. Vous voyez, cela est permis dans ce cas-là. Mais si ton intention, c'est que si la personne meurt sur la mécréance et qu'Allah, quand même, tu demandes à Allah qu'il lui pardonne, ça non, ça c'est interdit. Ou qu'Allah lui pardonne malgré sa mécréance, même si elle reste sur sa mécréance, ça c'est interdit. D'accord ? Donc le mieux, c'est de délaisser ça, même pour les vivants. Même pour les vivants, tu délaisses ça et tu demandes l'hidayah, la guider. La guider. Allah, guide-le. Allah, guide ma mère, guide mon père. Taïeb, il n'y a pas mieux que cette demande-là pour eux. C'est pour ça que les savants, ils disent, quand un mécréant te dit, par exemple, joyeux Noël ou bonne année, qu'est-ce que tu réponds ? Hein, les frères ? Chacun est confronté à ça, normalement. On répond quoi ? Merci, vous aussi ? Hein ? On fronce les sourcils et on tourne le dos ? Ça aussi, c'est pas bon.
Désolé, c'est pas ma faute.
Hein ? Les savants, ils disent, on répond qu'Allah vous guide. Ou que Dieu vous guide. Que Dieu vous guide. Allah, c'est Dieu. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous guide vers le salut, vers la vérité.
Alhamdulillah.
Avec le sourire. Au moins, tu as répondu, tu ne l'as pas ignoré.
C'est une belle réponse.
Et alhamdoulilah, tu as fait une doua pour lui. Pour le hidayah. D'accord ? Non. Attention, dites pas. Merci, vous de même. Bonne santé. Donc, on a dit. Non. Ma kana. Ma kana. Dans le Coran et la Sunna, il peut signifier deux choses. Ou il peut être utilisé pour l'une de ces deux choses. La première, قال الشيخ الاستعمال الأول النهي والثاني النفي النهي أو النفي فالنهي مثل هذه الآية وهي قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فهذا نهي عن الاستغفار لهم وكذلك قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة وهذا كذلك استعماله في النهي فالنفي كقوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ونحو ذلك من الآيات هذا ما كان للنفي دونك نجي ما كان dans le Coran et la Sunna peuvent être utilisés pour l'une de ces deux choses. La première, l'interdiction. Quand tu vois ma kana dans un verset, il se peut que ce soit dans le sens de l'interdiction. Ou alors de la négation, de la simple négation. Donc l'interdiction, comme dans le verset de la surat qu'on a vu, surat At-Tawbah. D'accord ? Donc, que j'ai fait exprès de traduire par « il est interdit ». Même si dans toutes les traductions, on verra « il n'appartient pas au ». Même si c'est proche quand même. Mais vraiment ici, c'est l'interdiction. Il est interdit au prophète et à ceux qui ont cru de demander pardon aux associateurs. D'accord ? L'interdiction ici concerne le fait de demander pardon à eux, pour eux. Et également, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, la surat At-Tawbah, « wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kafa » Yani, il n'appartient pas aux croyants de partir tous ensemble yani, au combat. Tous ensemble. D'accord ? Ici, je les chers, c'est aussi l'interdiction. Allah leur a interdit de partir tous. Donc il fallait qu'un groupe parte et un groupe reste. D'accord ? Ou alors il peut signifier. La négation, la simple négation. Ma kana. Comme de la parole, wa ma kunna muhlikil qura. C'est-à-dire, nous ne faisons pas. Donc, une simple interdiction, une simple négation. Nous ne faisons pas périr, ou nous ne détruisons pas les cités, sauf si ses habitants sont transgresseurs. D'accord ? Donc, wa ma kunna ici, c'est juste une négation. Nous ne détruisons pas les cités, sauf si ces gens sont des transgresseurs et des injustes. Voyez, il y a autre que cela parmi les versets où on a cette expression entre ma et kana. Ma et kana. C'est bon ? Non. Fa'idhan, arafna anna kalimata ma kana ta'ti fil Qur'an ala hadhain al ma'nayin. فالمراد بها هنا النهي أي النهي عن الاستغفار لأحد من المشركين فإذا كان الله عز وجل نهى الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم من أهل الصلاح في حال حياتهم عن الاستغفار لهؤلاء المشركين فهذا يدل عنه لو فرض أنهم يقدرون على الاستغفار في حال حياتهم البرزخية فإنهم لن يستغفروا للمشركين ولن يسألوا الله لمن توجه إليهم حال موتهم لطلب الاستشفاع أو لطلب الإغاثة أو غيرها من العبادات وأنواع التوجهات والله تعالى أعلم. Donc une fois que nous avons su que la parole ما كان vient dans le Coran sous l'une des deux significations, soit l'interdiction, soit la négation. Donc ici, on a vu que ce qui est voulu dans la sourate At-Tawbah, c'est l'interdiction. L'interdiction de demander pardon à quiconque parmi les associataires. Donc si Allah Jalla wa Ala, il a interdit cela à ses messagers, à ses prophètes, à ses alliés, et à autres que eux parmi les gens de Salah, les gens de la vertu, les gens de la piété, au moment de leur vie, quand ils étaient encore vivants, Allah Jalla wa Ala leur a interdit de demander pardon aux polythéistes. Cela indique, il dit le Cheikh, cela indique que si nous imaginons qu'ils seraient capables de demander pardon pour eux dans leur vie barzakhia. C'est quoi la vie barzakhia?
Après la
mort et avant la résurrection. Cette vie, on l'appelle al-hayat al-barzakhia. C'est une vie. C'est une vie, les frères. On a al-hayat dunyawiya, on a la vie de la dunya, al-hayat al-barzakhia, la vie de al-barzakh, c'est-à-dire entre la dunya et l'au-delà, la résurrection, et on a la vie de l'au-delà, al-ukhrawiya. Donc, si on imagine que ils sont capables de demander pardon pour les autres durant cette vie-là, d'al-barzakh, eh bien, même s'ils étaient capables, ils ne le feraient pas. Ils ne pourraient pas. Ils n'auraient pas le droit, Yanni. Ils n'auraient pas le droit de demander pardon aux associateurs. Et ils ne le feront pas également pour ceux qui les invoqueraient après leur mort, bien sûr. Pour ceux qui leur demanderaient la shafa'a, l'intercession, ou le secours, l'assistance, et autre que cela parmi les adorations voué à eux en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. فقال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Et pour conclure, il dit ici, et Allah tabarak wa ta'ala a descendu au sujet d'Abi Talib, le sens du verset, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais c'est Allah qui guide كي يلفو نكتفي بهذا بإذن الله عز وجل بارك الله فيكم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله